La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir ma sœur. Bonsoir à tous les bien-aimés qui sont présents avec nous, que ce soit physiquement ou par l'audioconférence. Et j'espère que vous avez passé une agréable journée. Je pense qu'il y a peut-être eu des moments difficiles durant cette journée, comme en chaque jour que nous passons sur cette terre. Mais j'ai la certitude aussi que Jésus-Christ accomplit sa promesse envers nous lorsqu'il nous a dit, avant de partir, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Et de ce fait, nous savons que nous pouvons compter sur lui. Et je souhaiterais que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Et c'est pour cela que je vous inviterai, à, là où c'est possible, à vous prosterner pour que nous puissions prier. Notre Dieu, notre Père, merci pour cette journée que nous avons passée sous ton regard et nous sommes arrivés à la fin de cette journée et tu nous as mis à cœur de pouvoir nous rassembler pour l'étude de ta parole. Et nous voulons te remercier pour cela et te demander de nous accorder ton esprit en cet instant, car nous aspirons à avoir une compréhension plus claire des Saintes Écritures. Et nous sommes véritablement conscients que de nous-mêmes, eh bien, comme Jésus nous l'a dit, nous ne pouvons rien faire. Mais si Christ est avec nous, nous avons alors l'assurance que nous serons en mesure de comprendre. D'autant plus que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, et qu'il nous a promis de nous envoyer l'Esprit de vérité, à savoir son Esprit. Alors Père, nous te demandons l'Esprit de Jésus, en cet instant, veuille toucher nos cœurs, veuille toucher les cœurs de chacun de tes enfants, chacun de ceux, celles et ceux qui te recherchent ici, et touche aussi les lèvres de ton serviteur, afin que le message puisse être communiqué convenablement et que ton nom soit glorifié en toutes choses. Pardonne nos fautes, nos manquements, purifie-nous et conduis-nous sur la voie qui mène à toi. C'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Le titre de la présentation est « Dois-je invoquer Dieu ou la divinité en hébreu ?» Ok. Dois-je invoquer la divinité en hébreu ? Et la raison pour laquelle le titre de cette présentation est une question, et très précisément cette question, est que depuis quelques années, il y a une théorie qui veut que, étant donné que les Israélites parlaient l'hébreu, eh bien, les chrétiens devraient invoquer la divinité par les noms divins hébreux et non grecs ou autres langues que nous puissions avoir. Ainsi, selon cette théorie, il ne serait pas bon d'employer des termes comme Jésus, Christ, Dieu, Jéhovah, etc. Mais plutôt Yeshua ou Yahushua, Mashiach, ok? Yeshua Mashiach, donc c'est la version hébraïque de Jésus-Christ. À la place de Dieu, il nous faudrait employer Elohim et de Jéhovah, Yahweh, Yahvé, ou tout autre dérivé ou version de ce genre. Mais qu'en est-il réellement? Est-ce que Dieu attend de moi, en tant que croyant, que j'emploie l'hébreu pour invoquer son nom? Cette théorie part du principe que le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Okay? Et ça, je tiens à souligner ça. Cette théorie part du principe également que le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. D'accord? Il y a des partisans de cette théorie qui sont très très forts là-dessus, ou quand je dis très très forts, qui insistent fortement sur ce point-là, et à tel point que on a vu des Nouveaux Testaments apparaître soi-disant en hébreu, ou que on a vu apparaître des évangiles de Matthieu en hébreu, ce genre de choses. Et donc, la théorie veut que le Nouveau Testament fut écrit en hébreu. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce vraiment le cas? Le premier point que nous allons voir, tout d'abord, c'est que le Nouveau Testament fut écrit non pas en hébreu, mais en grec. D'accord? Et la Bible est suffisamment forte et puissante pour nous le montrer. Le premier texte que nous allons prendre se trouve en Jean, chapitre 5, et nous allons considérer les deux premiers versets. Après cela, en Jean 5, versets 1 et 2, venait une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, un réservoir appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 portiques. Notez ici que Jean précise que cette porte des brebis, d'accord, il y avait près de la porte des brebis un réservoir appelé en hébreu Bethesda. Okay? Donc, l'apôtre Jean prend le temps de préciser son nom en hébreu. Okay? Texte suivant, Jean 19, verset 13. Pilate, entendant cette parole, mena Jésus dehors et s'assit sur son tribunal au lieu appelé le pavé, en hébreu, Gabata. OK? Donc, encore un deuxième passage où Jean, un hébreu israélite qui parle l'hébreu de base, prend le temps de préciser le nom hébreu de la chose. OK? Troisième texte, verset 17. « Et Jésus, portant sa croix, vint au lieu appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. » Donc là encore, nous avons un troisième passage où Jean prend le temps de nous dire l'appellation hébraïque du lieu où le Seigneur, jusqu'où le Seigneur a porté sa croix. D'accord? Prenons encore un chapitre plus loin, Jean 20, verset 16. Jésus lui dit « Marie » et elle, s'étant retournée, lui dit « Rabouni », d'accord? C'est-à-dire « mon maître ». Ok? Et selon la version que vous avez, ok, eh bien, vous réalisez que « Rabouni », en fait, c'est un terme hébreu, d'accord? C'est un terme hébreu. C'est pour cela que Jean prend le temps de dire, c'est-à-dire mon maître. OK? Apocalypse 16, verset 16 maintenant. Et on les rassembla dans le lieu qui s'appelle en hébreu Armageddon, c'est-à-dire montagne de la déroute. Et là, entre parenthèses, c'est le traducteur qui le rajoute. D'accord? Notez ici que Jean, l'apôtre Jean, que ce soit dans son évangile ou dans le livre de la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse, prend le temps à plusieurs reprises de donner la signification ou l'explication ou l'équivalent en hébreu de ce qu'il dit. J'aimerais vous poser une question. Si le Nouveau Testament avait été écrit, comme certains l'affirment, en hébreu, pourquoi les apôtres, comme Jean, ont-ils pris le temps de communiquer le nom hébreu ainsi que la signification, telle que nous l'avons vue dans ces versets? Si le Nouveau Testament avait été écrit en hébreu. Mes amis, je pense que l'évidence est assez claire. Si le Nouveau Testament avait été écrit en hébreu, les apôtres n'auraient jamais pris le temps de communiquer le nom hébreu ainsi que la signification des mots, des noms que nous avons vus en fait. Cela n'a pas de sens à ce que vous écrivez en hébreu et que vous dites en hébreu, voilà ce que ça signifie. En fait, ça n'a juste pas de sens, en fait. Ça n'a juste pas de sens. Nous avons vu que la Bible, elle-même, comme on le voit à travers ces 5 textes, la Bible elle-même nous prouve, d'accord, que le Nouveau Testament a été écrit en grec, d'accord, et non pas en hébreu. Et nous avons des confirmations qui nous viennent de la plume d'Ellen White. En effet, dans Letters 32, à l'année 1899, paragraphe 8, il est dit « Les manuscrits des écritures hébraïques et grecques ont été préservés à travers les âges par un miracle de Dieu. » Ça, c'est une déclaration qu'on a vue avec le pasteur Allen lors de la deuxième présentation de ce séminaire. OK? Et une deuxième déclaration aussi, dans Sign of the Time, June 7, 1883, le paragraphe 1, Luther, et on précise, s'est appliqué avec diligence à l'étude des langues anciennes, en particulier le grec et l'hébreu, afin d'étudier la parole de Dieu dans les langues d'origine. OK? Donc, ici, nous avons Ellen White, d'accord, qui, je le crois, a vu son ministère inspiré, d'accord, a vu son ministère caractérisé par le don de prophétie, qui nous dit et confirme ce qu'on a vu dans la Bible, à savoir que les Écritures, toute la Bible, eh bien, il s'agit de l'hébreu et du grec, d'accord? Donc, jusqu'ici, nous pouvons voir que l'une des bases sous lesquelles cette théorie s'appuie, à savoir que le Nouveau Testament aurait été écrit en hébreu, est déjà bien fragilisée. OK. Le deuxième point, et cela coule de source par rapport à ce que nous venons de voir, c'est la façon dont les Grecs invoquaient Jésus. OK? Il faut savoir que les Grecs invoquaient Jésus Christos. D'accord? Quand on sait que le Nouveau Testament fut écrit en grec, les passages suivants de l'Écriture deviennent alors très significatifs, mes amis. Rendons-nous en Actes, chapitre 4, verset 12, où il est dit « Ce Jésus, et en grec c'est Jésus, est la pierre qui a été rejetée par vous qui bâtissez, qui a été fait la principale pierre de l'angle. Et il n'y a de salut en aucun autre. Car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui a été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ceux qui sont partisans de la théorie selon laquelle il nous faut et nous devons employer les noms hébreux, sont, vous l'aurez compris, aussi partisans du fait que c'est en Yeshua que se trouve le salut. Mais ici, mes amis, l'apôtre Paul, Luc tout du moins, quand il a écrit le livre des Actes, il l'a écrit en grec. D'accord? Il l'a écrit en grec. Et bien évidemment, lorsque ce sermon a été donné, cette portion que nous voyons à l'écran de Actes 4, verset 12 a été donné, il se peut qu'elle ait été donnée en hébreu, mais elle a été écrite en grec pour des gens qui comprenaient le grec. et qui, en lisant ça, ils l'ont lu en grec et ont évoqué le nom grec qui leur a été écrit sur le parchemin. Paul, quant à lui, en 1 Corinthiens 1, verset 2, déclara « À l'Église de Dieu, qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à savoir en grec « Jesus Christos », leur Seigneur et le nôtre. » Alors, ce texte-là, je l'ai trouvé vraiment intéressant dans la mesure où il écrit en grec « Jesus Christos » et il précise qu'il est leur Seigneur et le nôtre. Mes amis, pour l'apôtre Paul, il ne faisait pas de doute que Jesus Christos était le même Seigneur que Yeshua Mashiach. Les Juifs invoquaient Yeshua Mashiach, les Grecs invoquaient Jesus Christos, et en fait, ils faisaient allusion à la même personne, en fait. Chose que les partisans de la théorie, qu'il nous faut invoquer les noms sacrés, réfutent en disant non. Mais Paul a dit que c'est leur Seigneur et le nôtre. Rendons-nous en Actes, chapitre 9, versets 13 à 15, et lisons ce que le Seigneur déclara à Anania concernant Paul. Il lui dit, et d'abord, Anania répondit au Seigneur, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs combien cet homme a fait de mal à tes saints à Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant les rois et devant les enfants d'Israël. Notez ici que le Seigneur a révélé à Ananias que Paul était un instrument qu'il s'était choisi afin de porter son nom aux gentils. OK? Les gentils, mes amis, ne parlaient pas l'hébreu pour certains. D'accord? Devant les rois, devant et aussi devant les enfants d'Israël. Donc, ceux qui parlent le grec et ceux qui parlent l'hébreu. Et Dieu l'avait choisi pour porter son nom. Et quand on regarde comment l'apôtre Paul a procédé, il a écrit ses épîtres en hébreu. Les autres apôtres ont également écrit leurs évangiles en hébreu. Si Jésus exigeait que son peuple l'invoque en hébreu, pourquoi alors a-t-il accepté que le Nouveau Testament soit donné en grec? Pourquoi a-t-il laissé les apôtres enseigner qu'il fallait invoquer le nom de Jésus, et très précisément en grec « Jesus Christos » pour être sauvé? Bien-aimé, il est clair, et je pense qu'il est très clair, que des personnes qui ne parlaient pas l'hébreu ont reçu le Fils de Dieu dans leur propre langue, à savoir ici le grec, et ils furent sauvés en invoquant le Seigneur dans leur propre langue. J'aimerais considérer maintenant un autre aspect et qui est celui de la vision d'Ellen White concernant les noms divins. Parce que il a été observé et j'ai eu l'occasion d'observer que les partisans de cette théorie, et je précise, les partisans adventistes du septième jour de cette théorie, sont persuadés que Ellen White était au clair là-dessus. Et qu'il y a une vaste manipulation concernant ses écrits, d'accord, là-dessus. Et que, bien souvent, apparemment, en fait, on aurait en fait retouché les textes pour mettre ces noms-là et non pas les noms hébreux. D'accord? Je ne l'ai pas mis dans la diapo, mais lors de l'une de mes présentations antérieures, pas que j'ai faite ici, mais que j'ai présentée en France, sur notamment le baptême, j'ai présenté un site qui est AdventistArchives.org. OK? Et sur ce site, vous avez les scans des Review and Herald, des périodiques et même de certains livres, d'accord? Parce qu'il nous faut savoir que les écrits que nous avons en numérique ont été produits via et grâce au scan qui a été effectué par des machines, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont placé un livre en papier sous une machine. Et la machine a la capacité de tourner les pages, de scanner la page et de retransmettre ça en texte, en fait. Et page comme ça, en fait. Et c'est comme ça que Google fait pour numériser des livres, en fait. Il ne faut pas comprendre que c'est quelqu'un qui recopie les textes. Ça, il faut vous l'enlever de l'esprit. C'est une machine qui fait ça, d'accord? Et des fois, il peut y avoir des erreurs. Moi, je retrouvais des erreurs dans l'application. Mais si vous avez un doute, vous allez sur AdventistArchive.org et vous avez les scans et là... Moi, des fois, ça m'a aidé à savoir où était l'erreur, d'accord? Donc, je vous invite à faire ce travail-là. Là, je vais vous présenter les textes tels qu'ils sont, conformément à l'original, d'accord? Commençons dans « Message choisi, volume 1, page 41, paragraphe 3. » Là, il est dit « Bien que je dépende de l'Esprit du Seigneur pour écrire mes vues, ou si vous voulez, mes visions, comme pour les recevoir, les mots que j'emploie pour décrire ce que j'ai vu sont les miens, sauf quand il s'agit de déclarations faites par un ange que j'ai soin de placer entre guillemets. » Donc, ici, la messagère déclare que elle dépend de l'esprit, oui, pour écrire ses visions. Mais, les mots qu'elle emploie pour les décrire sont les siens. Sauf quand c'est un ange qui lui parle, là, elle le met entre guillemets. OK? Alors, considérons ensemble ce qu'un ange lui a dit. Premiers écrits, page 64, paragraphe 1. Dans une vision qui me fut donnée le 27 juin 1850, l'ange qui m'accompagnait me dit, et là, c'est entre guillemets, le temps est presque fini. Reflétez-vous l'image de Yeshua comme vous le devriez? C'est ce que l'ange a dit? Est-ce que c'est ce que l'ange a dit? L'ange lui a dit Jésus. Quand vous allez dans l'anglais, l'original anglais, vous voyez marqué Jesus. Vous voyez marqué Jesus, mes amis. Et c'est ce que l'ange lui a dit. L'ange s'est exprimé à Ellen White dans sa langue. L'ange déclara Jésus, en anglais Jesus. Et continuons avec un autre exemple. Next. OK, thank you. L'ange demanda, de tels gens peuvent-ils aller au ciel? Un autre répondit, non, jamais, jamais. Ceux qui se désintéressent de la cause de Dieu sur la terre ne pourront jamais chanter là-haut le cantique des rachetés. Je vis que Dieu achèverait bientôt son œuvre ici-bas et que ses serviteurs devraient se hâter de réunir ses brebis dispersées. Un ange demanda, tous sont-ils des messagers? Un autre répondit, non, non, les messagers. De quoi? De Elohim? Il a dit? de God, en anglais c'est God qui est marqué, de Dieu, ont un message. Ceci est une citation de l'ange. Comme nous l'avons déjà spécifié, l'ange ne s'est pas exprimé en hébreu à Ellen White, ni même en grec ou en araméen ou je ne sais quelle autre langue. L'ange parla à Ellen White en anglais et il a déclaré, dans la première déclaration, « Jesus » et dans la seconde déclaration, « God ». Voyons encore une autre déclaration. Dans mes premiers écrits, page 66, paragraphe 1, l'ange dit « Le petit reste qui aime Dieu et garde ses commandements, qui demeure fidèle jusqu'à la fin, jouira de cette gloire. Il sera pour toujours avec Jésus et chantera avec les saints anges. » Là encore, vous allez dans le grec, et vous allez dans l'original anglais, devrais-je dire, et vous voyez que c'est marqué non pas Yeshua, non pas Jesus, mais Jesus. Donc on a vu jusqu'ici que l'ange qui parlait à Ellen White lui a parlé de God, de Jesus. Qu'en est-il du mot Christ? Est-ce que l'ange lui a dit Mashiach ou Christos ou quel mot l'ange a-t-il employé? Message choisi, volume 1, page 86, paragraphe 3. Alors l'ange me dit, ce sont ceux qui croient au Seigneur Jésus et qui obéissent aux paroles de qui? Du Christ. Et en anglais, c'est Christ. Ils sont la lumière du monde. Sans la présence de ces lumières, le jugement divin ne tarderait pas à frapper les transgresseurs de la loi de Dieu. Je vis ensuite ces petits jets de lumière augmentés de clarté, briller de l'est à l'ouest, du nord au sud, si bien que toute la terre en fut illuminée. Ainsi, il est clair que Ellen White a employé le terme God, Jesus, Christ. Qu'en est-il du mot Jéhovah? A-t-il déjà employé ce terme ou a-t-elle plutôt employé Yahweh ou Yahvé, ce genre de choses? Premiers écrits, page 60, paragraphe 1. Ce temps viendra bientôt. Nous aurons alors à nous appuyer fermement sous le bras puissant de qui? De Jéhovah. Car tous ces grands signes et ces prodiges ont pour but de séduire le peuple de Dieu et de le renverser. Il n'a pas de problème à employer le terme Jéhovah. Pas plus qu'en Jésus-Christ, page 97, paragraphe 1. Satan assista au baptême du Sauveur. Il vit la gloire du Père enveloppant son Fils. Il entendit la voix de Jéhovah attestant la divinité de Jésus. Une question. Arrivé à ce stade de la présentation. Si les partisans de cette théorie ont raison, alors, il nous faudrait conclure que Ellen White et les anges ne savaient pas comment se référer au Père, à son Fils et aux choses spirituelles. Pas plus que la Bible d'ailleurs. Je précise le Nouveau Testament très précisément. Mais tel n'est pas le cas, bien-aimé. Je ne pense pas qu'il soit sage pour quiconque d'entre nous d'arriver à des conclusions qui ne sont pas fondées sur des « ainsi parle l'Éternel ». Et notez la déclaration suivante. Dans Évangéliser, page 545, paragraphe 3. La prière de la foi est la force principale du chrétien et elle prévaudra certainement contre Satan. C'est pourquoi l'adversaire insinue que nous n'avons pas besoin de prier. Il déteste le nom de Jésus, notre avocat. Et quand nous venons à lui pour obtenir son aide, l'armée de Satan est en alerte. Si nous négligeons de prier, nous servons sa cause, car alors il nous est plus facile de souscrire à ses prodiges mensongers. Remarquez une chose, c'est que ici, elle déclara que Satan déteste le nom de Jésus. J'aimerais juste clarifier quelque chose. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que le nom hébreu de Jésus est diabolique et qu'il nous faut privilégier le nom français et qu'il nous faut le barrer, ne jamais, absolument jamais l'employer et employer le nom anglais ou français. Ce n'est pas là l'objectif. D'accord? Mais notez une chose, c'est que Satan déteste le nom et en anglais, elle a écrit « Jesus ». En français, nous l'avons, c'est Jésus en fait. Donc, le fait que nous employons le nom que nous avons dans notre langue, à savoir Jésus, c'est quelque chose qui enrage Satan, en fait. Les partisans de la théorie qui nous font employer les noms sacrés, en fait, pensent plutôt que Satan est content quand on emploie le mot « Jesus ». Et qu'en employant ce mot-là, on n'arrive pas à faire « Yeshua » ouvrir son oreille. Alors que c'est faux, en fait. Ça énerve tout autant Satan qu'un Français invoque Jesus, que Pierre invoquait Yeshua, puisqu'on se réfère au même Seigneur. Rappelez-vous ce que Paul a dit en 1 Corinthiens, leur Seigneur est le nôtre. Les pionniers adventistes du septième jour, mes amis, et la prophétie est là pour nous le montrer, ont prêché le message des trois anges contenant l'évangile éternel. D'accord? Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est vraiment dommage. Parce que si on n'est pas d'accord avec ça, en fait, on est en train de dire que le chapitre 10 de l'Apocalypse ne s'est pas accompli, en fait. On est en train de renier tout le désappointement qui a eu lieu et la prophétie qui a suivi, à savoir que tu dois aller prophétiser à toute nation, tribu, langue et peuple. Et en fait, ils ont prêché le triple message au monde, en fait. Mes amis, je crois que la prophétie s'est accomplie. Et je crois que les pionniers adventistes ont prêché le message des trois anges contenant l'évangile éternel. Et dans ce message des trois anges contenant l'évangile éternel, l'emploi des noms hébreux du Père et du Fils ne faisait pas partie du message qu'ils ont proclamé. Je m'explique. Il n'a jamais été présenté au peuple que nous devons, et souligner ce mot-là, parce que moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on me parle de Yeshua. Si c'est ta langue, ou si ça te fait plaisir de l'employer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, n'allez pas voir les gens pour leur dire « nous devons employer ce nom-là, en fait ». Parce que ça n'a pas de fondement dans l'Écriture, ni dans l'esprit de prophétie. Et mes amis, ça n'a de fondement que dans l'imagination des gens qui le partagent. Je suis désolé. Une telle exigence. Et c'est pour ça que la présentation s'intitule « Dois-je ? Dois-je invoquer la divinité en hébreu ? Est-ce que c'est un devoir ? Est-ce que c'est un devoir pour nous qui sommes dans la vérité présente ? Certains pensent que oui. Moi, je prends ma Bible et je dis que non. Non. Par conséquent, la doctrine selon laquelle il faudrait employer les noms hébreux de la divinité n'a pas sa place dans l'enseignement des prédicateurs du message des trois anges d'aujourd'hui, mes amis. Et ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et pourquoi? C'est parce que le nom, mes amis, et ça, c'est une chose que je pense que les partisans de cette doctrine, ont terriblement négligé, c'est que le nom signifie le caractère. Lorsque Jacob a été converti, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé son nom, mes amis. Dieu a changé son nom. Le nom signifie le caractère, équivaut au caractère. Et lorsqu'on En réalité, lorsqu'on insiste sur l'exigence d'employer le nom hébreu, eh bien, en réalité, on passe à côté de l'exigence de Dieu pour notre salut. à savoir d'avoir le caractère divin, mes amis. Oui, c'est bien ce dernier que Dieu exige que les croyants aient. Autrement, le texte suivant n'aurait aucun sens. Romains, chapitre 2, versets 13 à 15. « Car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Or, quand les gentils... » C'est qui les gentils? Les Hébreux? Les gens qui parlent l'hébreu? C'est ça? Non. « Or, quand les gentils qui n'ont point la loi font naturellement les choses de la loi, n'ayant point la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Leur conscience leur rend témoignage et leurs pensées les accusent ou les défendent. » En d'autres termes, Paul est en train de dire ici que il y a des gens, d'accord, des gentils, des gens qui ne connaissent pas Dieu, des païens en fait, hein, qui font naturellement les choses de la loi, puisqu'ils ont une conscience et ils écoutent leur conscience leur parler, les accuser ou les approuver, d'accord? Eh bien, ce que l'on pourrait appeler la loi qui est dans leur cœur là, ou cette attitude qu'ils ont, eh bien, cela tient lieu de loi. Et en fait, très précisément, je vais rectifier ce que j'ai dit. Je vais même citer ce qu'il a dit. Ils font voir que ce qui est prescrit par la loi est écrit dans leur cœur. Mes amis, aussi surprenant que ça puisse paraître, il y a des gens qui seront au ciel alors qu'ils n'auront même pas entendu parler de Jésus, en fait. Vous savez ça? Tout simplement, c'est ce qu'il est en train de dire là, en fait. Tout simplement parce que, malheureusement, on nous rappelle qu'on doit reprocher l'évangile, mais ils auront vécu l'évangile, en fait. Ils auront vécu l'évangile. Qu'on ne se méprenne pas sur ce que j'ai dit, parce que je sais que des fois, quand on parle, on amène les propos des gens à l'extrême. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de Jésus pour être sauvé. Mais ici, Paul est en train d'annoncer quelque chose. Si jamais vous avez jamais vu le commentaire d'Ellen White là-dessus, je vous invite à le lire. Il y a des personnes, d'accord, qui n'auront pas entendu parler de Jésus, mais qui auront fait la volonté de Dieu dans leur cœur, d'accord? Et lorsque vous faites la volonté de Dieu dans votre cœur, n'êtes-vous pas quelque chose comme prêt pour aller au ciel? Oui, vous êtes prêt pour aller au ciel, parce que les gens qui ne vont pas au ciel, ce sont les gens qui ont envie de monter au ciel pour continuer ce que Satan a fait. Ça, c'est les gens qui ne monteront pas au ciel. Mais quand vous êtes un païen, vous n'avez pas cette connaissance, mais que il se trouve que dans votre cœur, vous faites ce que la loi de Dieu dit, sans même connaître Dieu. Si on vous amène au ciel, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste dire, mais c'est exactement ce que j'ai vécu sur terre, en fait. Donc, je suis bien fait pour être ici, en fait. Et c'est ce dont Paul a fait parler ici, en fait. Et ces gens-là, mes amis, c'est ça l'objectif, en fait. Pourquoi je vous présente ce passage-là? C'est pour vous montrer l'objectif de l'évangile, en fait. C'est quoi? C'est d'avoir la loi de Dieu inscrite dans notre cœur, en fait. D'avoir le caractère de Dieu, en fait. Ainsi, faire l'évangile se résumer à une question d'orthographe, de grammaire ou de langue revient à passer à côté de l'essentiel, mes amis. À savoir connaître le caractère même du Créateur. Jean 17, verset 3. Or, c'est ici la vie éternelle qu'il prononce ton nom correctement. Ah bon? Moi, je pensais que c'était « Oh, qu'ils articulent ton nom correctement. Oh, qu'ils t'appellent correctement. » On l'a même en hébreu, en fait. Vous rigolez, mes amis, mais c'est ce que certaines personnes pensent, en fait. Mes amis, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus, qu'est-ce que tu as envoyé? C'est de connaître Dieu, mes amis. C'est aussi simple que ça. Pourquoi vouloir rendre l'évangile compliqué? On n'arrive des fois même pas à faire la volonté de Dieu. Parce qu'on ne tient pas des fois suffisamment ferme la main de Dieu. Et en plus de ça, on veut rajouter des choses dans l'évangile du Seigneur. Moi, je trouve ça déjà... Je trouve que c'est vraiment osé de faire ça, mes amis. C'est pour cela que je prie afin que les âmes qui sont convaincues que Dieu éprouve un grand déplaisir quand on utilise une orthographe autre que l'hébreu pour invoquer la divinité, puissent réaliser la profondeur de l'évangile, mes amis. Puisse la parole du Seigneur toucher nos cœurs et puissions-nous invoquer le nom du Seigneur d'un cœur sincère en nous éloignant de l'iniquité, car il est dit que celui qui invoque le Seigneur se détourne de l'iniquité, mes amis. Ceux qui ont crucifié Jésus, ils parlaient très bien l'hébreu, mes amis. Et c'est en hébreu qu'ils ont comploté la mort du Seigneur. Parler l'hébreu, ce n'est pas un problème. Je ne pense pas que Dieu nous interdise de parler l'hébreu. Mais en faire toute une petite doctrine et résumer l'évangile à cela, mes amis, ce n'est pas ce qui va nous aider. Encore une fois, nous avons besoin du caractère de Jésus reproduit en nous. Nous avons vu que c'est ça, en fait, l'objectif de la plus dernière saison, en fait. C'est de nous amener à la ressemblance du Christ, de sorte que nous soyons, nous aussi, à l'image de Dieu. Alors, puisse-nous, Seigneur, nous aider dans ce sens et puissions-nous invoquer le nom du Seigneur de cœur sincère. Amen. Ok, je vous invite à prier. Next. Okay. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et nous réalisons à quel point tu es grand et à quel point aussi tu descends vers nous. Tu nous as envoyé ton Fils Jésus pour nous racheter de nos péchés, pour donner sa vie, afin d'être ce garant pour nous. Et tu, Christ, nous voyons que Christ s'est abaissé à notre niveau. Et il est venu nous chercher là où est-ce que nous sommes. Et nous voyons que l'évangile vient nous atteindre là où est-ce que nous sommes. Nous te remercions de cela, Père, car si tel n'était pas le cas, je pense que très peu de personnes aurait pu t'adorer en esprit, en vérité. Mais loué sois-tu de ce que tu sois venu nous chercher là où est-ce que nous sommes et nous apporter la connaissance de la vérité là où est-ce que nous sommes. Et nous aspirons, Père, quelle que soit la langue que nous parlons, à pouvoir parler, eh bien, une seule et même langue, qui est celle de l'amour, qui est ton caractère reproduit dans nos cœurs. Alors, aide chacun d'entre nous, Père, en Jésus, à pouvoir marcher vers ce but. Et c'est la prière que nous faisons monter vers toi dans le nom de Jésus, Père. Amen.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org. ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.